de votre oreille attentive. Au revoir.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, Abdelrahman Dia au micro. Un grand plaisir de vous retrouver pour cette émission à votre avis sur VOA Afrique. On va parler des attaques djihadistes qui se multiplient au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Ceci malgré les mesures annoncées par les autorités de ces pays et la communauté internationale. D'ailleurs, le président togolais Faure Gnassingbé, dont le pays est frontalier du Burkina Faso, dit que la menace est réelle pour le Togo, même si aucune attaque n'a jusque-là été enregistrée dans ce pays. Comment expliquer cette hausse de la violence dans le Sahel? Comment arrêter ces attaques et éviter que ces attaques ne s'étendent à d'autres pays? Voilà les questions que nous allons aborder avec vous. Je rappelle le numéro pour participer en direct, c'est le 001 202 205 26 33. Nous avons déjà deux auditeurs, me dit-on. Voilà, Salomon depuis Kinshasa. Salomon, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Voilà, donc vous dites que les pays de la région ont des limites, c'est ça? Ils sont un peu limités.
Ah oui, effectivement. Moi, je pense qu'il y a une fois, j'avais déjà intervenu par rapport à ce sujet, à la même chaîne. Le président sont limités de quelle façon? Depuis qu'ils ont annoncé un dialogue avec les djihadistes, c'est déjà une faiblesse. Je ne pense pas que ceux qui sont sanguinaires peuvent venir tendre la main à vous qui avez des effets sur le médecin, disant que non, nous allons leur demander de qu'on se parle pour vu que c'est terminé toutes ces guerres-là, toutes ces tuyères-là. Ces gens-là aussi ont peur. Moi, je pense que la touche des choses à faire, la communauté internationale doit évaluer sur le financement de ces djihadistes-là. Ce sont des gens, comment ils sont ravitaillés de temps à autre. Dans différents pays, je compte au moins 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc là où il y a toujours des théories, comment ils sont financés, comment leur restauration est bien mesurée. Et puis ces gens-là n'ont jamais perdu. Ils ont même des dangers qui sont capables de traverser des déserts et des déserts. À chaque fois qu'ils attaquent des camps militaires, il y a des morts à tel point que même ils emportent encore les armes
des militaires.
Des militaires. Donc, pour moi, je pense que la communauté internationale doit plus renforcer son service de contrôle, savoir qui finance et sanctionner ces gens-là. Et puis, ne pas aller au dialogue, ni chercher un autre mécanisme qui peut les encourager à trouver toujours la fenêtre du gouvernement. Le gouvernement doit utiliser sa force majeure pour éradiquer ces gens-là. Donc, on n'a pas à négocier, sinon que le peuple qui meurt, bien que les gens sont compatissent avec le peuple, mais il n'y a pas aucun enfant parmi eux. Donc, ce sont le peuple qui se perd, et le même peuple, là, n'a pas de sens.
Voilà. Ce sont voilà, merci beaucoup, Salomon Mungidou, depuis Kinshasa. Nous avons Bakary Keïta au Mali. Bakary, bonsoir.
Ah, bonsoir, Abdrawan.
Oui, merci à vous et à tous les auditeurs qui nous écoutent au Mali. Alors, on a vu ces attaques qui ciblent les civils notamment. On a au Burkina une attaque contre une église protestante qui est aussi un autre aspect de la question. Ils ciblent des lieux de culte. Comment est-ce que vous jugez tout cela? Pourquoi tout d'un coup on voit dernièrement toutes ces attaques?
Bon, parce que si les terroristes, ils ne sont pas décapités, hein. Par exemple, souvent certains chefs quand même ont été tués, mais ils ont surtout des racines ici au Mali, parce que dans un premier temps, le Mali était le ventre mou, parce qu'après la crise de la Libye, beaucoup de terroristes quand même se sont vraiment convertis vers les grottes du Mali. Vous voyez. Donc, étant ici, ils sont en train quand même de multiplier les attaques. Maintenant, pour les contrecarrer maintenant, il va falloir que nous soyons vigilants. Parce que c'est la guerre, c'est une guerre asymétrique. Même les plus grandes nations quand même sont vulnérables. À plus forte raison, vraiment, nous, vraiment, les Africains, il va falloir qu'on soit vigilants et se donner vraiment les moyens. Et surtout, on doit essayer d'avoir quand même l'aide des Américains pour ne serait-ce que pour le renseignement. Parce que dans une guerre, il faut avoir quand même les renseignements vraiment pour contrecarrer vraiment ces terroristes qui sont vraiment extrêmement des stratèges, ils sont fins et ça sera quand même un peu difficile. Mais il va falloir quand même qu'on soit vigilant
pour essayer de venir à bout vraiment de ces sanguinaires.
Bakary, il y a cette nécessité de la coopération aussi, non seulement entre les pays touchés, je pense notamment au G5, mais à d'autres pays qui ne sont pas membres du G5. Vous avez entendu Fornia Simbe du Togo qui aussi se préoccupe de ce qui se passe à la frontière de son pays avec le Burkina Faso.
Moi, je crois que c'est l'Union qui pourra quand même vaincre ces terroristes. Hein. C'est pas seulement que ce soit vraiment un cercle restreint, le Mali, le Burkina, le Niger, le G5, on doit aller au-delà. Et les autres doivent être vigilants. Par exemple, le Niger, il y a le Boko Haram. Par exemple, au Cameroun aussi, il y a des indices aussi de Boko Haram. Donc, on doit vraiment se donner la main pour vraiment pouvoir vaincre vraiment ces terroristes. C'est surtout les renseignements et la vigilance quand même qui peuvent venir à bout vraiment de ces terroristes. Et on demande vraiment l'aide des Américains, ne serait-ce que pour leur renseignement.
Pour leur renseignement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Bakary, pour cette réaction. Nous avons Sédou Kassongo depuis la RDC également. Sédou, bonsoir.
Oui, bonsoir à la VOA, bonsoir à toutes les communautés qui nous suivent en ce moment.
Voilà, bonsoir également à tous les auditeurs qui nous écoutent dans ce grand pays, la RDC. Alors, vous parlez de situation alarmante.
Donc, nous déplorons parce que ce sont des victimes d'une enfance qui partent de leur vie et ces mouvements d'adultes qui cessent de gambader des familles. C'est une situation extrêmement alarmante, mais une situation qui devrait être régularisée par une prise de conscience de nos dirigeants africains, mais aussi de nos partenaires externes. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que ces groupes armés ont des revendications, alors que ces revendications devront être suivies par les dirigeants de pays touchés par un temps de dialogue. Dernièrement, j'ai suivi l'appel du président malien qui était prêt de pouvoir dialoguer avec les groupes armés opérant dans son pays. Mmh. Et c'est aussi une approche, mais la plus grande approche est celle de bien respecter les prérogatives constitutionnelles. Si aujourd'hui nous avons des groupes armés, ça et là, c'est parce que la plupart des dirigeants africains ne respectent pas le mandat constitutionnel. Ils veulent aller au-delà de ce qui est prévu par la Constitution, et c'est aussi une entorse. Mais aussi la communauté internationale qui joue à la ruse, à la malice, de pouvoir venir créer la guerre à travers le financement de groupes armés pour profiter de nos ressources naturelles. Cette situation doit certainement prendre fin parce que la population africaine a besoin de vivre dans la paix.
Alors, Sédou, c'est vrai que dans ce cas, on parle du Sahel, mais en RDC, quand on voit un peu ce qui se passe à Beni, est-ce que pour vous, il y a une similarité entre les activités des ADF et un peu ce qu'on voit dans le Sahel?
Bon, dans
parce que là aussi, il s'agit de victimes civiles, hein, pour la plupart.
Oui, allô?
Oui, je dis pour la plupart, c'est des victimes civiles qu'on voit ici, même dans le cas des ADF à Beni.
Effectivement, ce sont de victimes civiles qui en pâtissent. Mais la guerre à l'est de notre pays, une guerre asthmétique, à travers laquelle il y a eu vraiment des raisons qui ont été évoquées par cette guerre. Donc il y a certains, au cadre de notre pays, de certains politiciens qui sont derrière cette guerre, mais pas seulement certains politiciens, mais aussi certains membres de la communauté internationale qui financent ces groupes armés. Mais je suis certain, avec les efforts consentis par nos forces armées, actuellement, nous enregistrons de victoire dans victoire. Certes que la situation n'est pas encore maîtrisée à 90%, mais le bastion des ADF ont été récupérés par nos forces armées. Et je les encourage de continuer à faire la trace. Mais aussi, je rappelle l'appel du chef de l'État, son Excellence, monsieur Sékou Touré Félix, avait appelé à la reddition volontaire.
D'accord.
Et les chefs de guerre, les seigneurs de guerre qui ont compris cet appel, viennent auprès de forces armées pour déposer les armes. Et ici, je rappelle également que j'appelle également à tous ces groupes armés négatifs qui opèrent à l'est du pays de venir déposer les armes pour consolider la paix dans cette partie est.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sédou Kassongo, depuis la RDC. On reste en RDC, notamment à Kinshasa, avec Alphonse Mbouaké. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, Abdelhamane. Moi, je pense que l'option militaire doit être maintenue. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rende opérationnel le gestionnaire. Il y avait problème de financement. Donc, il faut vraiment qu'on donne des moyens à ce groupe pour qu'il soit, soit présent sur le terrain. Et puis, à part ça, je trouve aussi la thèse de Boubacar Keïta, le président malien, qui a suggéré que si on peut aller à des négociations avec ces djihadistes, peut-être ça peut aboutir à des solutions durables. Donc, il ne faut pas toujours rester tamponné sur l'opération militaire pour trouver des solutions aux intentions djihadistes. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi associer les populations. Hein, c'est celle qui dénonce tout ce qu'on trouve de suspect dans les quartiers, dans les rues, dans les avenues. Il faut dénoncer ces gens-là.
Donc il faut que les populations coopèrent.
Par rapport à l'armée Congo, je pense que ce sont des islamistes, ce sont des djihadistes. Le mode opératoire est djihadiste. Quand on voit comment on coupe les gens les têtes, donc je pense qu'il faut une implication forte de la communauté internationale, une implication armée, une implication d'armement pour que le FARDC, donc l'armée congolaise, soit dotée d'armes efficaces pour débusquer, pour neutraliser toutes ces forces. D'ailleurs, les FARDC ont commencé déjà à tuer beaucoup déjà d'autres, mais on ne comprend pas comment ces gens-là continuent toujours à exister. Donc, je pense que vraiment, il faut une application forte, une mutualisation des forces. La MONUSCO, on a décrié sa présence là-bas, mais maintenant, là, vraiment, je trouve qu'il faut qu'elle change des mandats, qu'elle soit forte. La MONUSCO a beaucoup d'armement, mais plus vraiment, je ne sais pas comment elle est. Ne tient pas sur le terrain. Donc, je pense qu'en RDC, la solution, c'est aussi les pays voisins, le Rwanda et le Uganda, il faut qu'ils démocratisent leur politique pour que ces groupes-là qui viennent de leur pays puissent rester sur place, se transformer en parti politique.
D'accord.
Et que la RDC soit en paix.
D'accord, en tout cas, merci. Voilà, merci beaucoup, Alphonse. On va à Bujumbura. Nous avons Thierry en ligne. Thierry, bonsoir.
Bonsoir, merci, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, toutes ces attaques de djihadistes dans le Sahel, quel est votre commentaire sur cette situation dramatique?
D'abord, monsieur le journaliste, moi je regrette beaucoup parce que avec l'intervention de la France et surtout dans le Sahel, je prétendais peut-être que pour le moment on allait maîtriser les attaques terroristes. Mais pour le moment, vraiment, je regrette beaucoup et surtout je trouve que non seulement les autorités africaines, mais aussi même les simples citoyens, ils ont tous laissé, ils ont donné toute la responsabilité à la France, ils ont donné toute la responsabilité à l'Occident. Ce qui me paraît vraiment comme faux, parce que d'abord la France est là pour intervenir. Et il y a quelqu'un qui vient d'intervenir et qui a dit qu'il faut que la population coopère. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que dernièrement, j'ai entendu le président malien dire vouloir négocier avec les terroristes. Là, si vous voulez négocier avec les terroristes, c'est que vous voulez leur donner des forces.
De la force?
Comme ça, ils vont intervenir, ils vont agir. Soi-disant, peut-être que les autorités africaines commencent à les reconnaître comme des éléments forts. Vous voyez, parce que si le président accepte de négocier avec les terroristes, là, c'est déjà un échec. C'est déjà un échec. Je dis donc que les autorités africaines pensent toujours qu'il faut que les étrangers interviennent. Nous allons toujours échouer. Les attaques terroristes vont se multiplier. Donc, pour moi, il faut agir. Il faut peut-être créer une stratégie qui pourra non seulement inclure les agents de sécurité et les militaires, non, mais aussi il faut que la population soit aussi impliquée.
D'accord, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry depuis Bujumbura.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Nous allons à Brazzaville. Nous avons Sow Abdourahman. Monsieur Sow, bonsoir. Vous êtes en ligne.
Oui.
Bonsoir, Abdourahman Sow.
Oui.
D'accord.
Bon, moi, je disais pour lutter contre ces djihadistes au nord du Mali, il faudra que la population coopère. Parce que j'avais entendu que le président burkinabé disait qu'ils vont former des civils qui vont coopérer avec les militaires pour bien lutter efficacement contre ces gens-là. Mais je vois bien qu'il n'y a rien qui se passe parce que...
Et vous trouvez que c'est une bonne solution, le fait de former des civils pour aider l'armée dans cette lutte?
Oui, mais c'est ça que le président burkinabé disait, ça pour former les jeunes dans des villages pour bien lutter contre ces gens-là. Mais si ça continue comme ça, parce que les djihadistes continuent toujours à tirer. Et ce qu'il fait, il divise la population civile. Parce que au Mali, on voit entre les Godons et les Pils qui se tirent entre eux-mêmes. Ça, c'est pas des djihadistes qui tirent, c'est la population civile même qui s'est entrée. C'est ça le problème.
Ouais.
Pour lutter contre ces gens-là, il faut que la population civile même s'est unie d'abord contre ces gens-là pour bien lutter contre ces gens.
D'accord. Sinon, et sur Facebook,
si la population se divise.
Abdourahman,
ça fait pas.
Oui, tout à fait. Sur Facebook, vous dites également, vous faites appel à la CDAO, hein?
À la CDAO de tout le monde, tout la CDAO devait passer, c'est un problème de la CDAO. Ce qui se passe au Mali, ça affecte tout le CDAO, ça paralyse les jeunes CDAO, ça se voit, la circulation, ça ne passe plus. C'est devenu quelque chose d'insoutenable. Vous avez entendu le président togolais, Faure Gnassingbé, ce qu'il dit, le Togo n'est pas épargné, parce que ce qui se passe au Burkina, c'est pas loin de Togo.
Tout à fait.
C'est quelque chose qui est très, très dangereux. Il faut que la population de la CDAO...
Tout à fait. Il ne faut pas que les autres pays attendent d'être attaqués pour réagir. Il faut qu'ils aident déjà les pays qui sont touchés.
Oui, parce qu'on voit, on entend les Américains qui veulent partir, mais... Parce que si nous, les citoyens de CDAO, on n'aide pas nos voisins, on attend les Américains et les Français de venir nous aider. C'est ça le problème. Il faudra que la CDAO même se mette en place pour aider et les gens voient que la CDAO travaille et les autres vont venir nous aider. Sinon, ça ne peut pas être passé. Ces gens-là, je ne sais pas.
Voilà.
On ne peut pas négocier avec eux. Moi, je n'ai pas des avis avec le président malien de négocier avec des gens qui nous tuent chaque jour.
D'accord.
Ça, on ne peut pas négocier avec eux.
D'accord,
il faudra
merci.
Les affronter et faire tout possible que les gens arrêtent de tuer les citoyens.
Voilà, merci beaucoup Abdourahman Sow depuis Brazzaville. Et à Ouagadougou, on a Aziz Younga. Aziz, bonsoir.
Oui, bonsoir VOA Afrique, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
D'accord, et vous, en fait, votre pays est vraiment aujourd'hui touché. Comment est-ce que vous voyez tout cela?
Premièrement, moi je trouve que le problème réside au niveau de la gouvernance d'abord, parce que tout simplement, je ne peux pas comprendre qu'il y a plusieurs années, depuis 2015 jusqu'à là, le Burkina Faso n'est plus que suivi des attaques, et que jusqu'à présent, les autorités ne prennent pas conscience vraiment de ce fléau. Parce que les problèmes que se posent jusqu'à présent, au niveau même des soldats, on attend certains problèmes comme par exemple les problèmes de paiement des primes, les problèmes de non-équipement même adéquat même de ces soldats-là, ainsi que même les arrêts de salaire. Donc on ne peut pas comprendre que vraiment les gens qui sont là pour lutter, pour sauver vraiment l'intégrité de la nation et qu'ils ne sont pas vraiment à l'aise, pensatifs et vraiment faire leur travail.
Donc il faut d'abord régler la question de la motivation des troupes pour vous, c'est ça?
Oui, il faut motiver les troupes. Parce que, tant qu'ils ne sont pas motivés, vraiment, ils ne peuvent pas se donner comme ils se doivent. Voilà, donc la motivation, vraiment, le parquet est le primordial. Hein. Voilà, sans la motivation, tu ne peux pas te donner à fond. Voilà, même si tu as les qualités, c'est un peu compliqué. Vraiment, moi, je vois que dans 15-17 ans, les soldats burkinabés ici, particulièrement, bon, ils font des efforts vraiment sur le terrain, parce qu'on voit que depuis là, bon, suspendre ces soldats-là pour attaquer comme avant, là, bon, ils ont commencé vraiment à s'adapter vraiment à la tactique même de ces ennemis-là.
Comment est-ce que vous expliquez cette facilité de mouvement de ces groupes armés dans une région pratiquement aride? Le Sahel, c'est quand même une zone où on n'a pas ces forêts denses. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ils arrivent à se déplacer assez facilement et à mener des attaques d'envergure?
Oui, tout cela, c'est parce que tout simplement, le problème, moi je disais d'abord, le problème est politique, voilà, c'est politique d'abord, puisque je dois comprendre que vraiment des individus qui circulent avec de simples motos, dans des régions vraiment, comme vous l'avez dit, et qu'on n'arrive pas à les voir, c'est un peu compliqué. Donc, bon, de ce côté, je peux aussi parler, par exemple, des pays qui disent, soit ils vont nous aider. Bon, avec les matériels, et qui sont là, avec tout le matériel qu'il faut, qui n'arrivent même pas à détecter ces ennemis-là. Et puis, est-ce que les ennemis continuent à suspendre nos soldats? Donc, vraiment, c'est un problème que je pense que c'est fondamental, c'est politique d'abord. Voilà.
D'accord.
Les politiques, quand je regarde, bien l'homme qui est le Burkina Faso, avant même le départ des comparés, nous, on était en paix.
D'accord. Merci.
Après, c'est pas la clé de subvention de toutes ces attaques-là.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà. Aziz Yunga depuis Ouagadougou. On a peut-être un dernier auditeur, Soumaïla Koné, à Dakar.
Oui, monsieur, bonsoir.
Bonsoir. Alors, oui, vous êtes dans un pays qui n'est pas encore touché. Et bon, espérons qu'il ne sera pas touché, mais c'est une situation que les Sénégalais observent avec beaucoup d'intérêt. Comment est-ce que vous jugez tout cela, toutes ces attaques dans les pays voisins, dans les pays du Sahel?
Bon, vraiment, c'est une affaire qui est vraiment meurtrie, qui meurtrie beaucoup mon cœur, vraiment. C'est chez moi, je suis burkinabé.
Vous êtes burkinabé.
Vous savez, moi, j'accuse personnellement des fois nos chefs d'État. Parce que des fois, c'est des gars, ils viennent comme s'ils viennent juste pour être comme des candidats, comme par exemple les élèves, sans comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, quelle est leur mission. Sinon, il ne faut pas être des chefs d'État souris. Donc, il faut être des chefs d'État chats. Il faut savoir contrôler tout autour du pays.
Pas seulement...
Et si c'est un chef d'État souris, tu restes juste dans ton trou et tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe au coin du pays, au coin ouest, au coin sud. Regardez quoi. Imaginez, c'est pourquoi moi, personnellement, je n'aime pas les défilés militaires lors des fêtes d'indépendance. Ils nous montrent des armes, des hommes, et après, il y a un petit problème comme ça, de rien, et des gens qui se lèvent comme ça, et puis ils viennent tuer, on ne sait même pas d'où viennent ces problèmes comme ça. Mmh. Imaginez quoi. Mmh. Il faut que ce soit des gens qui soient comme Sankara. Il se déguisait, lui. Il partait dans tous les coins du pays pour comprendre qu'est-ce que les gens vivent. Mais d'accord. Toi, tu es chef d'État, tu te portes comme ça, tu es là dans tes costumes, et on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et après, on dit les choses. Des fois, ils se disent même qu'ils ne savaient pas que le prix du sucre est là-bas comme ça. Ils ne savent pas que le sucre de telle chose est là-bas comme ça.
Voilà,
non,
merci.
Personne ne doit t'informer. C'est merci. Toi-même qui dois le savoir.
Voilà, merci beaucoup, Soumaïla. En tout cas, vous plaidez pour une plus grande implication des autorités dans ce qui se passe dans leur pays, dans les coins et recoins du pays. Merci beaucoup et bon courage. J'ai peut-être quelques commentaires avant de nous quitter. Alban Tchala nous dit que l'extradition des mines d'or dans les zones des trois frontières peut expliquer la situation. Pour inverser la tendance et garantir la sécurité de la population, il faut continuer le dialogue tel que prévu et d'une part, d'autre part, sensibiliser la population à dénoncer les personnes alliées à ces forces. Voilà. Donc, Djibril Diallo dit que le manque d'entente entre pays, c'est vraiment triste. On s'en arrête là. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci à Georges Léonard Seignon. Dans quelques secondes, une autre édition du Monde aujourd'hui avec Clairement et je vous au revoir.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.